en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 17 octobre 2011, Jean Tullard a prononcé une communication intitulée « Quand les premiers intellectuels appartenaient à l'Institut ». C'était à l'Académie des sciences morales et politiques devant ses confrères. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette séance et de prendre plaisir à cette communication quand un académicien raconte l'histoire dans un style inimitable et captivant, l'histoire de ses anciens confrères.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, que l'Institut national des sciences et des arts était beau en 1795. À la classe des sciences physiques et mathématiques, on apercevait Lagrange, Laplace, Delambre, Monge, Prony, Lalande, Méchain, Cassini, Coulomb, Berthollet, Fourcroy, Guiton-Morveau, Vauquelin, Chaptal, Lamarck, Jussieu, Cuvier, Lacépède, Pelletan, Portal, Allais et Parmentier. À la classe de littérature et des beaux-arts siégeaient David, Houdon, Chalgrin, Méhul, Gossec. À la section des sciences morales et politiques, on remarquait Volney, Cabanis, Sieyès, Merlin de Douai, Bernardin de Saint-Pierre, Lacanal, Dupont de Nemours, Bougainville, Mercier, Donnoux, Cambacérès et même Talleyrand. Allait y entrer, par la suite, Ampère, Arago, Gay-Lussac, Geoffroy Saint-Hilaire, Fontaine, Vivant de Nom, d'Estut Tracy et en 1811, Chateaubriand. Et parmi les correspondants, on relève Canova, Appiani, Salieri, Paizello. Lors de la première réunion de l'Institut, le 4 avril 1796, un journaliste s'exclame. On n'a pas vu sans attendrissement, on avait à l'époque l'alarme facile, cette réunion des hommes les plus recommandables dans les sciences et les arts que la tourmente révolutionnaire avait dispersée. Et Donnoux, qui est l'inspirateur de cet institut, prononce le discours d'ouverture. Au règne de la barbarie qui a duré plus de 2 ans, succédera un grand siècle, comme un beau jour succède à l'orage. Maintenant, en pleine possession de la liberté, la République nous appelle pour rassembler et raccorder toutes les branches de l'instruction, reculer les limites des connaissances, provoquer les efforts des talents, récompenser leur succès, recevoir, envoyer, répandre toutes les lumières de la pensée, tous les trésors du génie. L'idée d'un institut remontait à Mirabeau qui avait rêvé d'une académie nationale. Talleyrand avait lu, dans les derniers jours de la Constituante, au nom du comité d'instruction publique, un projet de création d'un institut national. Et Condorcet, lui aussi, avait rêvé d'une société nationale. Dans tous ces projets, les sciences morales et politiques étaient à l'honneur. Elle devait refléter les lumières triomphantes formées de la métaphysique et des sentiments moraux, du droit naturel et du droit des gens et de la science sociale, du droit public et de la législation, de l'économie politique et de l'histoire. En effet, dans cet institut, les regards se portent surtout sur la classe des sciences morales et politiques où siègent les idéologues héritier des philosophes des Lumières. À dire vrai, ils se nomment eux-mêmes les idéologistes. Cabanis, Volney, Gara, Destut Tracy se réunissent à Auteuil chez la veuve du philosophe Helvétius et on appelle cette réunion le groupe d'Auteuil. Que veulent ces idéologues ? Donner aux sciences sociales la même solidité qu'aux sciences dites exactes. Il souhaite éliminer de la philosophie, de l'économie politique, de la politique tout court, voire de la médecine, toute influence d'une religion, d'une doctrine révélée, La démonstration doit être fondée sur l'expérience, la rigueur est indispensable. Les idéologues croient au progrès, à l'idée de perfectibilité. L'idéal est pour eux de fonder et de fondre toutes les connaissances en un vaste ensemble à partir de la doctrine des sensations de Condillac. Bien sûr, simplifier la pensée des idéologues serait réducteur. Les idées de Destutt-Tracy ne se confondent pas avec celles de Gara. Volney n'est pas Cabanis. Mais Volney résume bien dans Les Ruines, en 1791, l'idéal de ces idéologues. L'égalité et la liberté, dit-il, sont deux attributs essentiels de l'homme, deux lois de la divinité, inabrogeables et constitutives, comme les propriétés physiques des éléments. L'idée de liberté soutient essentiellement celle de justice, qui naît de l'égalité. Une étape reste encore à franchir. Confronter toutes les diversités religieuses en sorte que la superstition laisse la place au rationalisme. Ôter tout effet civil aux opinions théologiques, voilà la condition de la paix sociale. Ces idéologues font de l'Institut national des sciences et des arts, créé par l'article 298 de la Constitution de 1795, leur bastion, leur place forte. L'Institut, effectivement, n'est-il pas chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences, bref, d'œuvrer dans le sens du progrès. Réparti en trois classes, l'Institut ne recoupe-t-il pas les représentants de toutes les sciences réunis en un seul corps? À l'inverse de l'ancien régime, et savants ou savants et artistes étaient répartis dans des académies, académies françaises, académies des sciences, etc., académies qui s'ignoraient. De cette place forte, les idéologues rayonnent grâce aux communications qu'ils présentent à l'Institut ainsi et devant un nombreux public. Ainsi, Destutt-Tracy parle-t-il de la faculté de penser, Laromiguière de la détermination des mots, ou encore Grégoire, qui proclame le droit inné de tout homme au bonheur. Il n'est, dit-il, pas de morale qui ne soit républicaine, la république des lettres enfantera des républicains. Il y a aussi un journal. Car ils comprennent le pouvoir de la presse, il y a la décade philosophique créée par Jean Genet en l'an 3. Y collaborent Amaury Duval de l'Institut, Andrieux de l'Institut et, il n'est pas de l'Institut, hélas, l'économiste Jean-Baptiste C. sous le pseudonyme d'Atticus. C'est lui qui fait la synthèse entre le libéralisme économique d'Adam Smith, qu'il admire, et la philosophie des Lumières. D'emblée, ces idéologues ont compris non seulement le pouvoir de la presse, mais l'importance de l'enseignement. De là, la création, le 25 octobre 1795, de ces écoles centrales dont Stendhal sera issu. L'enseignement de la philosophie y est fondé sur la pensée de Condillac. L'histoire dédaigne le Moyen-Âge, trop obscurantiste. Toutes les matières scientifiques sont traitées sous une forme pratique dans des cabinets d'histoire naturelle ou des laboratoires de chimie. Les instructions sont données. Vous devez écarter tout ce qui appartient aux dogmes et aux rites des cultes et sectes philosophiques. Enfin, les idéologues participent activement à la vie politique. Sieyès entre au directoire. Cabanis est député de la Seine au Conseil des 500. Gara siège au Conseil des Anciens. Les idéologues représentent donc une puissance intellectuelle et politique avec laquelle il faut compter. Un jeune général ambitieux en mesure vite l'importance. Bonaparte, de retour d'Italie, décide de se présenter à l'Institut dans le fief des idéologues. Il a été l'admirateur de l'abbé Raynal et il s'est déjà lié à Monge et à Berthelet, électeurs puissants, et les a chargés de porter au gouvernement le texte de la paix de Campo Formio. Fourcroy en a communiqué la nouvelle à l'Institut et a fait applaudir le vainqueur des Autrichiens. Voilà un excellent début de campagne pour entrer à l'Institut. Or, une place est vacante à la section de mécanique, celle de Carnot qui a été fructidorisée lors du coup d'État. Six porte-candidats, outre Bonaparte, le ci-devant marquis de Montalembert, qui fut membre de l'Académie des sciences et qui est l'auteur d'un ouvrage mémorable sur la fortification perpendiculaire. Et puis, un deuxième candidat, qui est Dillon, ingénieur en chef des ponts et chaussées. L'élection se déroule selon une procédure prévue par le règlement du 4 avril 1796. La section dans laquelle la place est vacante, la section de mécanique, dresse une liste de 5 noms qu'elle présente à la classe à laquelle appartient, c'est-à-dire la classe des sciences, et les membres de cette classe procèdent à un classement d'où 3 noms doivent être dégagés. Et ces 3 noms sont présentés à l'ensemble de l'Institut, car tous les membres de l'Institut participent aux élections. Le vote a lieu le 25 décembre 1797. La présence des 2/3 des académiciens était requise. Ils furent 104 pour 144 membres de l'Institut. La procédure était curieuse, et c'est ce qui faisait le charme de cette élection. En effet, il y avait 3 candidats. Celui dont vous ne vouliez pas du tout, vous lui donniez une voix. Celui, vous étiez indulgent, 2 voix. Et celui que vous mettiez en premier, 3 voix. Donc, vous votiez 3 fois, mais il ne fallait pas se tromper. Vous mettiez un bulletin pour celui dont vous ne vouliez pas, 2 bulletins pour celui, bon, alors hier s'y passe, et 3 bulletins pour celui que vous vouliez. Et c'est finalement celui qui avait le chiffre le plus élevé qui l'emportait. Je vous rappelle que l'Institut est dominé, surtout, vous l'avez vu, par les scientifiques. De là, ce système extrêmement subtil. Ce fut donc Bonaparte qui fut élu avec 305 votes, Dillon en eut 166, et l'immortel auteur de la fortification perpendiculaire n'en eut que 123. Le 5 janvier 1798, Bonaparte fit son apparition pour la séance publique au milieu de l'enthousiasme. Vêtu d'un frac gris, il n'y avait pas encore d'uniforme, il s'assit modestement entre la grange et la place, serra la main de Marie-Joseph Chénier, qui venait de lire son poème « Le vieillard danseniste ». Bonaparte, avouons-le, fut plus élu pour ses victoires en Italie que pour ses connaissances en matière de mécanique. D'ailleurs, sa culture mathématique ne dépassait pas le fameux manuel de Bézout. Mais il ouvre une tradition, celle de l'élection des grands militaires à l'Institut. Avec cette élection, une alliance est scellée entre ce jeune général qui monte et les idéologues. Et d'ailleurs, pendant son séjour à Paris, le général assiste à toutes les séances de l'Institut et cette assiduité sera payante. Bonaparte ambitionne plus que d'être membre de l'Institut, avouons-le. Mais il s'est rendu compte qu'un coup d'État contre le directoire en ce début de 1798 serait hasardeux, car celui-ci a repris la situation en main depuis le succès de son coup d'État du 18 Fructidor. Une tentative de débarquement en Angleterre serait presque aussi incertaine. Mais ne rien faire serait se faire oublier. La gloire est éphémère. C'est alors que Talleyrand, son confrère à l'Institut, lui suggère de prendre la tête d'une expédition en Égypte. La conquête, assure le consul de France en Alexandrie, serait facile. Mais n'est-ce pas une folie ? Envahir un pays sans déclaration de guerre pour y combattre les Anglais qui n'y sont pas installés, vouloir libérer de la domination des Mamelouks des fellahs qui n'ont rien demandé, surtout embarquer les meilleurs soldats de la République sur des navires qui risquent d'être coulés par la flotte anglaise, et alors que la guerre peut reprendre sur le continent, c'est folie. Folie. À moins que l'Institut lui donne une justification scientifique. Or, Volney a mis à la mode, avec ses ruines, les vieilles civilisations et notamment l'Égypte. Monge et Berthollet, les fidèles de Bonaparte, sont associés au projet. Et dès lors, le directoire, qui est conscient qu'il s'agit là d'une entreprise hasardeuse, ne peut s'y opposer, tant est grand le prestige de l'Institut. Il saute aux yeux que la campagne d'Égypte répond à des calculs de politique intérieure, attendre avant que la situation soit mûre pour un coup d'État. Mais la caution scientifique de l'Institut, et d'ailleurs un institut d'Égypte, sera créé au Caire sur le modèle de l'Institut national, cette caution suffit. On sait ce qu'il advint de l'entreprise, mais les résultats scientifiques sont quand même incontestables. De retour en France, en compagnie de Monge et de Berthollet qui ne le quittent pas, en octobre 1799, Bonaparte juge que l'heure du coup d'État a sonné. Et de Talleyrand à Cabanis, les complicités sont nombreuses au sein de l'Institut. Les idéologues donnent leur accord au point qu'on finit par se demander si ce coup d'État n'est pas un coup d'État de l'Institut national. La preuve. Le soir du 19 Brumaire, c'est Cabanis qui harangue les députés rassemblés après la dispersion des opposants par l'armée. « Pour sauver la Révolution, il n'est qu'un moyen. Réformer les lois organiques en confiant ce soin à un gouvernement provisoire qui puisse élaborer l'œuvre avec sagesse, c'est la suprême expérience à tenter. » Expérience, c'est le mot clé, vous l'avez vu, des idéologues. Et l'approbation de l'Institut légitime le coup d'État. Et cela vaut évidemment récompense. Entre au Sénat, nouvellement créé, Cabanis, Destut Tracy, Gara, Berthollet, Monge, inévitable, Volney, Lagrange, Laplace, Sieyès et Vien. Siège au tribunat, outre Benjamin Constant, qui n'est pas de l'Institut, pas plus que c'est, siège Andrieux, Marie-Joseph Chénier, Donou, Ginguenet. On retrouve au Conseil d'État, toujours de l'Institut, Chaptal, Fourcroy, Radrère. Et n'oublions pas que Laplace a été un moment très bref, parce qu'il était désastreux, il a été un moment très bref ministre de l'Intérieur, que Cambacérès de l'Institut est ministre de la Justice, que Talleyrand, de l'Institut, est ministre des Relations extérieures, où il remplace Reynard, lui-même, de l'Institut. Chers confrères, l'Institut est partout. Les Lumières, chères aux idéologues, triomphent. Jamais l'emprise de ceux que nous appelons les intellectuels n'aura été aussi forte. Et Joubert s'en amuse. Il est fâcheux de sortir de l'horrible règne des avocats pour passer sous celui de la librairie. Pourtant, mais les choses vont rapidement se gâter. Bonaparte, devenu premier consul, continue de combler de faveur ses confrères de l'Institut, mais il n'écoute guère leurs avis. La dictature se profile. Mais comme l'écrit Jean Golmier dans sa biographie de Volney, la dictature d'un confrère de l'Institut ne semble pas redoutable et se confond aux yeux des idéologues avec la dictature de la science et du bon sens. C'est que les idéologues se défient des passions populaires qu'ils viennent d'éprouver, de la démocratie mal comprise où les masses se substituent aux élites. Fauriel a un mot magnifique. « Je suis pour la République, à condition qu'il n'y ait pas de républicains. » Toutefois, à mesure que le temps passe, les idéologues s'inquiètent. Surtout lorsque s'ouvrent les pourparlers en vue de la signature d'un concordat avec Rome. Un homme comme Volney, qui est l'athée typique, entre alors en opposition déclarée avec Bonaparte. Voici le récit qu'en donne Bénard, il illustre la brusque rupture de l'idéologie avec le premier consul. Le premier consul, en s'entretenant avec Volney, lui ayant dit qu'il était dans l'intention de rétablir le culte et de salarier le clergé, celui-ci blâma hautement ce dessein, alléguant qu'il suffirait de rétablir la liberté des cultes et de laisser à chacun le soin et la charge de payer les ministres du culte qu'il professera. Mais, dit Bonaparte, la France me demande l'un et l'autre. « Eh bien, répliqua Volney, peut-être avec cette morgue qui lui était familière, si la France vous demandait les Bourbons, les lui accorderiez-vous ?» À ces mots, Bonaparte, ne se possédant plus, est livré à un de ces accès de colère auxquels il se laissait, dit-on, aller assez fréquemment, frappa du pied le ventre de Volney assez rudement pour le renverser, puis, ayant sonné pour qu'on le relevât, il donna froidement l'ordre de le reconduire à sa voiture. Stendhal et d'autres ont repris cette histoire, mais elle n'est pas prouvée. Imagine-t-on, mes chers confrères, un membre de l'Institut donner un coup de pied dans le ventre d'un autre membre de l'Institut? Non. Reste que les manifestations de désapprobation de la part des idéologues, surtout à propos du concordat, vont se multiplier. L'un des idéologues, face à ces négociations qui s'ouvrent, ne va-t-il pas jusqu'à s'exclamer « Je jure que Dieu n'existe pas !» Le 22 novembre 1801, le corps législatif élit pour président Dupuis, membre de l'Institut, auteur de « L'origine de tous les cultes », où il explique les religions par l'astronomie. C'est une forme de défi, cette élection, à la volonté de Bonaparte de restaurer le catholicisme. En décembre, plus exactement 1800, mais déjà en novembre, le tribunal s'en prend aux premiers articles du Code civil et Denoux et Andrieux de l'Institut sont à la pointe du combat. La riposte de Bonaparte, qui va consacrer cette rupture, est rapide. Vous connaissez la violence de ses propos. Avec lui, le terme d'idéologue prend désormais un sens dénigrant. On sait son discours contre cette classe de phraseurs et d'idéologues qui ont toujours combattu l'autorité existante, ou encore au Conseil d'État, cette dénonciation de cette ténébreuse métaphysique, cause de tous les malheurs qu'éprouve la France. L'attaque va commencer le 18 mars 1802, lors du renouvellement du tribunat qui devait se faire par tirage au sort. Bonaparte fait décider que seront désignés par Senatus Consulte les députés qui ne seront pas repris, alors qu'il devait y avoir tirage au sort. Et à la faveur de ce Senatus Consulte, tous les idéologues sont éliminés du tribunal. Même sort au corps législatif, La presse est muselée et bientôt, je vous le rappelle, les lycées vont remplacer les écoles centrales avec des programmes différents. Et puis, Bonaparte frappe l'Institut, la place forte des idéologues. Il le fait avec habileté, sous la forme d'une réorganisation décidée le 23 janvier 1803, sans consultation des membres de l'Institut. L'Institut comprend désormais 4 classes. La première est celle des sciences physiques et mathématiques. 63 membres répartis en 11 sections et 2 secrétaires perpétuels. Tiens, un personnage nouveau. La deuxième classe s'intitule « Langue et littérature française », 40 membres et 1 secrétaire perpétuel. La troisième classe se consacre à l'histoire et à la littérature ancienne, 40 membres, là encore, 1 secrétaire perpétuel. La quatrième classe, enfin, est vouée aux beaux-arts et compte 28 membres répartis en 5 sections avec, là encore, 1 secrétaire perpétuel. Il saute aux yeux que cette réorganisation ressuscite les académies de l'Ancien Régime. Académie des sciences, c'est la première section. Académie française, c'est la deuxième section. Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est la troisième section. Et l'Académie des beaux-arts, c'est la réunion des académies de peinture et d'architecture. Et même, on va jusqu'à rappeler au sein de l'Institut d'anciens et vénérables académiciens de l'Académie française qui n'avaient pas été repris lors de la résurrection, en quelque sorte, de l'Institut en 1795. Et les sciences morales et politiques. La deuxième classe, celle des idéologues, elle est supprimée. Elle est punie pour son opposition au concordat. Oh, le premier consul s'en défend. Il n'y avait pas d'académie des sciences morales et politiques avant 1789. Et l'on ne saurait parler d'épuration, puisque les membres de cette classe sont répartis dans les 4 classes créées en 1803. Aucun n'est exclu. Mais Gara, la tête pensante du groupe des idéologues, n'en est pas dupe. En répartissant les idéologues dans plusieurs classes, on les réduit au silence. Ils tonnent. Le but des premiers changements de l'Institut était d'en exclure les sciences morales et politiques pour exclure plus facilement ensuite la République de la France. Bien que dispersés, les idéologues, avec l'appui des savants, auraient pu continuer la lutte si l'Institut avait continué à ne former qu'un seul corps. En 1795, les classes n'étaient pas cloisonnées, n'avaient pas de secrétaire perpétuel distinct et votaient ensemble. La réforme de 1803 revient à l'Ancien Régime, crée des académies, mais le terme est encore trop réactionnaire en 1803, il n'apparaîtra qu'en 1817 avec Louis XVIII. La réorganisation de 1803 crée des académies autonomes et indépendantes, certes. Elles forment l'Institut et doivent se réunir 4 fois par an à l'occasion de séances extraordinaires. Une commission administrative examine les problèmes communs, mais une hiérarchie s'introduit en fonction de l'ancienneté des académies et il n'y a plus d'égalité entre ses membres. Le rêve des idéologues s'efface en 1803. Comme l'écrit notre confrère Marc Fumaroli, l'utopie d'un corps encyclopédique dont tous les organes auraient travaillé de concert à un rythme incessant s'est évanouie. À travers les idéologues, l'Institut est brisé par Bonaparte. Il perd la puissance qu'il avait lorsque Monge, Volney et David parlaient d'une seule voix. Certes, les idéologues conservent le Sénat, bien que noyé par les nouvelles nominations de Napoléon. Certes, ils prendront leur revanche en avril 1814, lorsqu'ils proclameront la déchéance de l'empereur, mais il est trop tard et ils vont perdre cet ultime bastion transformé en chambre des pairs. La résurrection en 1832 de l'Académie des sciences morales et politiques n'y pourra rien. Les idéologues sont emportés par le mouvement romantique, laminé, démodé, méprisé. Pourquoi n'ont-ils pas mieux résisté alors qu'ils avaient disposé des principaux leviers de commande? Il leur a manqué l'appui du peuple dont ils se sont coupés. Ils ont toujours cru au prestige de l'esprit et de la parole et pas à celui de l'action. Isolés, discrédités parce que un peu trop soucieux de prébende, ils acceptent assez facilement les traitements, les légions d'honneur, les titres nobiliaires, ils ne peuvent empêcher une restauration qui s'accompagne d'une renaissance religieuse. Les ruines de Volney, leur grand manifeste, les ruines sont mises à l'index le 17 décembre 1821, comme d'autres écrits, dont ceux de Destutt-Tracy. À propos de Volney, le drapeau blanc, organe royaliste, parle en 1821 de ses élucubrations et de son catéchisme impie. C'est la victoire de Chateaubriand et du génie du christianisme. Les idéologues auront été pourtant les premiers intellectuels à vouloir imposer leurs idées aux politiques. Héritage de 1803, l'Institut de France aujourd'hui est, sous la houlette, il est vrai, d'un chancelier, la juxtaposition de 5 académies autonomes et ne parlons plus d'une seule voix, comme l'avaient voulu les idéologues. Ah, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, mes chers confrères, que l'Institut national des sciences et des arts était beau en 1795.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de Jean Tullard. Les premiers intellectuels appartenaient à l'Institut, une communication prononcée devant ses confrères à l'Académie des sciences morales et politiques le 17 octobre 2011.